jour, de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous interroger sur des animaux au poil. Les mammifères, omniprésents sur terre comme sur mer, dans les arbres et jusque dans les airs. Mais qu'y a-t-il de commun entre un lion, une baleine, une chauve-souris, un ornithore, un quintatou, un loup, un mulot, un chimpanzé ou une vache ? Sont-ils vraiment tous à poil, avec des dents ? Et des mamelles pour les femelles. Comment expliquer une telle diversité de taille, d'aspect, d'anatomie et de comportement? Comment les mammifères humains que nous sommes parviennent-ils à les observer, à les étudier? Voilà quelques-unes des questions que nous allons soulever ensemble avec nos invités, les biologistes Audrey Savouret-Soublet et Patrick Hefner, experts mammologistes au Muséum National d'Histoire Naturelle, autour de la question « Pourquoi les mammifères sont à poil ?» Bienvenue à l'âge des mammifères.
Moi qui croyais que les gros avaient un aimable caractère.
Je ne suis pas gros. Ma fourrure fait de l'épaisseur, c'est trompeur. J'ai le poil bouffant.
Le poil bouffant ou le poil ras, les mammifères de tout poil sont en question aujourd'hui avec vous. Audrey Savouret-Soublet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Patrick Hefner.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur RFI. Vous êtes tous deux experts mammalogistes à l'unité mixte de services pour le patrimoine naturel au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Auteur de plusieurs ouvrages sur les mammifères sauvages de France. Vous venez de publier à quatre mains aux éditions Quae dans la collection 90 clés pour comprendre les mammifères de tout poil. Parce qu'ils sont, et ce sera ma première question Audrey, ils sont tous à poil, les mammifères?
Alors, initialement, ils le sont tous parce que ça fait partie des quatre caractéristiques originelles des mammifères. Donc on a le lait, les dents différenciées, les osselets de l'oreille moyenne et les poils. Donc initialement, ils sont tous à poil.
Il y a plusieurs types de poils, hein, il y a beaucoup de types de mammifères.
Il y a plusieurs types de poils et tous les mammifères au cours de l'évolution ne sont plus à poil. Notamment, on a le rat taupe nu qui a pratiquement perdu tous ses poils, comme une petite chauve-souris qui, pareil, est pratiquement en glabre. Et de la même façon, chez les cétacés, on a quasiment plus de poils.
Pour les mammifères marins.
Pour les mammifères marins, exactement. Chez les jeunes, il y en a encore quelques-uns. Et chez certaines espèces, il peut y en avoir au niveau de la moustache, mais c'est beaucoup plus rare.
Est-ce qu'on sait combien d'espèces de mammifères existent sur Terre, Audrey ?
Alors, cette question peut paraître assez simple, d'autant plus sur les mammifères qui est un groupe normalement assez connu. Mais ça restera un chiffre assez général. Donc, on parle de 5700 espèces. Mais ce chiffre est encore appelé à évoluer parce qu'on en découvre encore aujourd'hui. Donc on en a découvert le dernier daté de 2015, si je ne me trompe pas. Il y a eu un petit rat, le rat au nez plat qui a été découvert. Donc ça rajoute des espèces. Et de la même façon, il y a des évolutions donc, au niveau de la taxonomie, donc de la façon de nommer les mammifères, qui va faire qu'une espèce se divise en deux espèces, donc on augmente le chiffre, ou à l'inverse, plusieurs espèces se regroupent pour n'en former qu'une. Donc tout ça fait évoluer le chiffre.
Alors quels sont leurs points communs à tous ces mammifères terrestres ou marins, arboricoles ou même volants? Avant de vous demander votre définition, Patrick Hefner, je vous propose d'écouter celle que nous a donnée ici même le professeur Guillaume Lecointre du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Qu'est-ce que c'est qu'un mammifère? La carte d'identité du mammifère, l'attribut qui le définit et qui se voit sur des fossiles comme sur des actuels, c'est le fait d'avoir la mandibule, la mâchoire, faite d'un seul os qui s'appelle l'os dentaire. L'articulation entre la mandibule et le crâne, ça se fait entre deux os, le dentaire pour la mandibule et le squamosal pour le crâne. Ça, que vous regardiez des chauves-souris, des dauphins, des musaraignes, des humains, eh bien c'est présent partout.
C'est une petite surprise pour nous que le point commun de tous ces mammifères soit à chercher dans l'os dentaire, Patrick Hefner.
Oui, alors Guillaume Lecointre définit les mammifères de cette façon en réalité parce que c'est le caractère qui permet de faire le lien entre les espèces actuelles et les fossiles.
Oui, on n'a plus des os et du coup quand il y a l'os dentaire, c'était des mammifères.
Totalement, parce que les autres critères qui ont été évoqués par Audrey, en réalité, on ne peut plus les voir sur les fossiles, c'est la production de lait. Ce sont les poils, bien qu'on ait pu mettre en évidence des fossiles avec des poils, mais qui étaient en fait des mammaliens, mais pas des vrais mammifères.
Il y a une différence entre mammaliens et mammifères. Quelle est la différence?
En fait, En fait, c'est les premiers caractères des mammifères sont apparus avant les mammifères eux-mêmes, et les mammifères, c'est simplement, je dirais, une branche qui a survécu. Voilà. Mais il y a un certain nombre de caractères comme les poils qui sont apparus avant les mammifères à proprement parler. C'est-à-dire avant qu'ils acquièrent les caractéristiques qui ont été évoquées. La caractéristique de cet os dentaire. La mise en place des osselets dans l'oreille moyenne, l'étrier, l'enclume et le marteau, qui sont typiques des mammifères, mais c'est un critère, là encore, qu'on ne voit quasiment jamais sur les fossiles. Et enfin, alors, par contre, un critère qu'on peut voir sur les fossiles, mais qui n'est pas... qu'on peut également trouver chez d'autres animaux, ce sont les dents différenciées. Présence d'incisives, de canines, de molaires et de prémolaires. Ça, c'est les mammifères.
On va revenir sur les dents des mammifères, alors, mais j'aimerais même m'arrêter un peu sur l'étymologie de ce mot, parce que nous, quand on entend mammifère... C'est l'étymologie même de ce mot.
Oui, ce mot a été créé en 1792 par Alexandre Brogniart, qui était donc un naturaliste, et parce que les mammifères qu'on connaissait à l'époque étaient porteurs de mamelles, donc c'était le critère qui semblait le mieux définir les mammifères. Mammifères, ça veut vraiment dire qui porte des mamelles.
Donc ça ne concernait que les femelles mammifères.
Ça c'est très particulier parce que c'est peut-être le seul groupe sur lequel un nom a été créé à partir de la description des femelles. Mais c'était quelque chose, évidemment, qui était assez frappant. Et puis, nous sommes nous-mêmes
des mammifères hein, on le rappelle.
au lait, au sein, etc. est très fort. Donc, ça a influencé certainement ce naturaliste. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore d'autres animaux dont on va probablement parler tout à l'heure, les monotrèmes.
Alors, les monotrèmes, avant d'en venir là, c'est-à-dire qu'il y a des animaux, des mammifères, qui n'allaitent pas leurs petits ou qui n'ont pas de mamelles.
Alors, qui n'ont pas de mamelles, voilà.
Tous allaitent leurs petits.
Pardon ?
Tous les mammifères allaitent leurs petits.
Complètement, voilà. Donc, tous ont des glandes mammaires. Mais la mamelle, qui permet aux petits de téter, n'est pas présente chez ces fameux monotrèmes. En fait, ce sont des plages glandes mammaires...
Les monotrèmes, pour nos auditeurs, ça ne dit pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a comme animal monotrème ?
Alors, les monotrèmes, en fait, ce sont... Alors, il y en a un qui est bien connu de tout le monde, c'est l'ornithorynque.
L'ornithorynque, il y a des pattes de canard.
Tout à fait, un animal extraordinaire, d'ailleurs, dont les premiers naturalistes n'ont pas cru au départ que c'était qu'il existait.
Ils pensaient que c'était une chimère, un animal imaginaire.
Absolument. Et puis également les échidnés. Alors les échidnés, ce sont si on voulait les décrire, ils ont un peu l'allure de hérissons. Et tous ces animaux vivent en Australie ou en Nouvelle-Guinée.
Voilà. Et donc ces animaux-là allaitent leurs petits, mais les femelles n'ont pas de mamelles. Donc ce sont des mammifères sans mamelles.
C'est ça. En fait, le lait est exudé directement au niveau de plages qui sont sur les flancs, et les petits lèchent les poils, en fait, lèchent le lait qui sort et qui imprègne les poils.
Une telle diversité, c'est quand même ça qui est très étonnant dans les mammifères, puisqu'on parlait des petits et du rapport, c'est pas du rapport de l'allaitement, mais pourquoi est-ce que certains mammifères tuent leurs petits, notamment les lions, hein ? Il y a une petite question comme ça dans votre ouvrage, Audrey.
Exactement, alors il y a les lions, mais il y a aussi d'autres espèces, l'ours notamment. Donc cet infanticide, en fait, ça va jouer sur la disponibilité sexuelle de la femelle. Tant que la femelle est avec ses petits et qu'elle les allaite, elle est concentrée pour faire survivre sa progéniture. Donc, elle sera vraiment occupée à ça. Donc, du coup, quand un lion étranger arrive dans un clan, il se bat contre le mâle dominant. S'il arrive à le battre, il va avoir accès aux femelles. Mais tant qu'il y a les petits, la femelle ne voudra pas se reproduire. Donc, du coup, son premier plan de drague, qui est assez particulier... Ça va être de tuer les petits. Comme ça, la femelle, rapidement, pourra de nouveau être disponible sexuellement et s'accoupler avec le mâle.
C'est pas pour dire, mais parfois, on est content d'être mammifère humain autour de la question. Pourquoi les mammifères sont tous à poil et à dents ? On va y revenir. Nouvelle question sur ce qui nous rassemble tous, donc nous, tous les mammifères. Nouvelle question soulevée par Ludovic Duquel. Il est éthologue et travaille, lui, sur les céphalopodes, les poulpes et autres sèches.
une question qui me taraude. Pourquoi les mammifères sont chauds ?
Qui peut répondre à cette question qui taraude l'éthologue Ludovic Diquel ?
Alors, pourquoi Patrick est-ce qu'ils sont chauds ? Alors, déjà peut-être, c'est l'occasion de rappeler qu'on les vertébrés, on a tendance à les classer en animaux à sang chaud et à sang froid. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait vrai, puisque toute cellule, pour fonctionner, doit avoir une température minimale. Et même les reptiles et les amphibiens, qu'on classe parmi les animaux à sang froid, doivent se chauffer au soleil ou bien sous des pierres, etc. Mais les mammifères, avec les oiseaux d'ailleurs, produisent en fait leur propre chaleur. Hein, ce sont ce qu'on appelle des endothermes. Et il y a divers mécanismes pour produire cette chaleur. Le principal, c'est tout simplement le métabolisme, hein, les réactions chimiques qui se produisent lors
à l'intérieur du corps pendant la digestion.
Voilà, en particulier la digestion, mais au niveau de certains organes également, comme le cerveau, le foie, les reins, le cœur, etc. Ces réactions produisent de la chaleur qui est récupérée par le sang et qui est ensuite transmise à l'ensemble du corps. En fait, il n'y a pas de perte d'énergie. Il y en a, hein, bien sûr. Un petit peu, mais le corps essaye d'économiser un maximum l'énergie en récupérant cette chaleur.
Voilà pourquoi tous les mammifères sont chauds. On ne dit plus à sang chaud, mais chauds.
Voilà, sont chauds. Alors, il y a aussi l'activité physique musculaire, hein, qui produit de la chaleur. Et en particulier, tout le monde connaît le frissonnement ou le grelottement. Quand on a froid, d'une façon réflexe, les muscles se contractent, ça produit de la chaleur.
Et le rôle des poils là-dedans, est-ce que ça permet aussi de maintenir une certaine chaleur dans le corps ou une certaine
température ? Alors les poils, ce sera plutôt pour conserver cette chaleur, donc en emprisonnant une petite couche d'air qui va limiter les échanges avec l'extérieur. Mais les poils ne produisent pas la chaleur, ils permettent juste de la conserver.
Autour
comme
de la
nos
question.
Vêtements, d'ailleurs, voilà.
Ben oui, mais les mammifères, voilà. Justement, enfin les autres mammifères, on va dire, ils sont à poil. C'est autour de cette question que nous tournons et on s'arrête sur la crinière du lion avec Thomas Fersen sur RFI, les malheurs du lion.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Au café rêvait un lion. Devant sa consommation, il voit venir une abeille vêtue d'un tailleur querelle, de noir avec le soleil, une petite merveille. Elle grésille, elle bourdonne avec l'accent de Narbonne, et gentiment elle butine un diabolo grenadine. Ainsi rêvassait le lion devant sa consommation. Il voit venir un moucheron vêtu d'un complet marron, avec des ailes sur le tronc et une mèche sur le front, qui grésille, qui s'éseille avec l'accent de Marseille, qui lui casse les oreilles et lui arrive à l'orteil. Petit, je suis le lion. Allez, va jouer au ballon. Tu peux t'éponger le front, avoir les jambes en coton. Ici c'est moi le patron, c'est moi qui donne le ton. Tu s'éseilles, tu grésilles et tu tournes autour des filles. Un conseil, tiens-toi tranquille, tu vas t'asseoir sur le grill. T'es prêt comme une fourmi et tu veux te battre avec moi. Allez, sois raisonnable, je suis trop fort. Si tu t'en prends à la pègre, tu finiras dans le vinaigre. Allez, tiens-toi tranquille, sinon t'es mort.
Les malheurs du lion, version Thomas Fersen sur RFI. Autour de la question pourquoi les mammifères sont à poil et au poil, je vous ai vu sourire Audrey Savouret-Sublet et Patrick Hoffner. Vous êtes tous les deux experts mammologistes au muséum. Tout de suite, une nouvelle question, soulevée cette fois-ci par Cécile Estienne du mensuel Cerveau et Psycho.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui, vraiment, comment s'est formé le placenta, cet organe qui reste aussi mystérieux et aussi indispensable chez les mammifères.
Est-ce qu'on le sait un peu mieux, comment s'est formé le placenta?
Alors, je n'ai personnellement pas la réponse. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce placenta n'est pas... on ne le trouve pas que chez les mammifères.
En tout cas, il est commun à tous les mammifères. C'est vraiment une caractéristique des mammifères ou pas?
Il n'est pas commun à tous les mammifères. Mm-hmm. Et deuxièmement, on peut le trouver chez d'autres animaux que les mammifères. Alors, il peut y avoir des origines multiples. Mais, par exemple, un certain nombre de reptiles, alors on s'éloigne un petit peu des 30 quelques secondes des mammifères, mais certains reptiles, donc, dits vivipares, possèdent un organe qui est proche du placenta.
Lesquels? Quels reptiles?
Alors, eh bien, par exemple, les vipères. Le nom vipère vient de vivipare, le lézard vivipare. Mais on a découvert, il y a quelques années seulement, un cinque qui, d'après les gens qui l'ont étudié, un cinque, c'est une sorte de lézard,
un reptile. D'accord, là je comprends mieux quand vous dites lézard.
Et donc, qui lui a vraiment une structure qui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui est fonctionnelle exactement comme le placenta. Et pour les mammifères, en fait, les monotrèmes dont on a parlé...
Donc le fameux ornithorynque.
Tout à l'heure, les ornithorynques et les échidnés, eux, pondent des œufs, en fait, et n'ont donc pas de placenta.
Donc on peut être mammifère et pondre des œufs.
On peut être mammifère et pondre des œufs. Les autres espèces possèdent un placenta qui est plus ou moins rudimentaire. Les métathériens, c'est-à-dire en fait les marsupiaux, ont un placenta qui est rudimentaire, dans lequel...
Les marsupiaux, ce sont alors,
les kangourous, mais c'est aussi d'autres animaux qui vivent en Amérique, comme les opossums. Ce sont en fait des animaux qui ont une poche, dans lequel...
Et comment ils naissent, leurs petits?
Alors, leurs petits, naissent alors qu'ils sont encore à l'état d'embryon. On parle d'ailleurs de larves marsupiales. Malgré tout, même s'ils ont des membres, c'est juste, je dirais, des moignons. Des ébauches de membres. Ils grimpent dans le poil de la femelle jusqu'à la poche et viennent se mettre dans la poche et à ce moment-là se fixent à une des tétines. Donc là, chez ces animaux-là, ces mammifères-là, le placenta, en fait, est assez rudimentaire. Il ne permet pas le développement complet. Et puis après, tous les autres mammifères qu'on appelle donc les eutériens, c'est-à-dire donc les vrais mammifères placentaires, eux, donc la totalité du développement de l'embryon puis du fœtus se fait dans le placenta.
Vous voulez rajouter, Audrey, quelque chose sur les petits kangourous
sur
dans la poche de leur
oui.
maman?
Oui, parce qu'effectivement, c'est quand même assez impressionnant, cette larve. On la compare à la taille d'un bourdon. Donc ça fait vraiment, ça mesure 2-3 cm et ça pèse à peine 1 gramme.
Donc faut que les mamans kangourous, elles s'en occupent vraiment.
Exactement. Il va vraiment grandir dans la poche accrochée à sa tétine. Et ce qui est aussi assez extraordinaire dans ce groupe-là, c'est que la femelle va pouvoir de nouveau s'accoupler alors qu'elle est en train d'allaiter et avoir un second petit par la suite.
Qui vont se partager la poche?
Le plus grand sortira, mais continuera à être allaité. Et ce qui est extraordinaire, la nature est quand même très très bien faite, c'est qu'il y a quand même du lait différencié, comme nous on a chez les hommes.
Elle produit deux sortes de lait, celui qui est dans la poche et
un deuxième âge pour le grand.
Extraordinaire. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on feuillette votre livre et toutes ces questions qui se posent sur les mammifères, c'est la diversité. Et c'est effectivement à quel point alors la nature est bien faite ou la nature a tout essayé. On peut presque le dire comme ça, parce qu'il y a vraiment tout et son contraire autour de la question des mammifères marins et terrestres, mais aussi volants. Nouvelle question pour vous, soulevée par un physicien, Christophe Clanet, qui était récemment notre invité.
Pourquoi il y en a-t-il si peu qui volent, en fait? C'est-à-dire, il y a les chauves-souris, mais chez les mammifères, il y en a quand même très peu qui volent. Donc, est-ce qu'il y en a une idée de ça? Je ne sais pas.
Pourquoi la chauve-souris, ça c'est un mammifère volant, mais pourquoi il y a si peu de mammifères volants, Patrick Hoefner?
Je tempérais un petit peu quand même, parce qu'il y a à peu près 1200 espèces de chauves-souris, si je ne me trompe pas.
Ah oui, donc c'est énorme, hein, en fait, comme proportion de mammifères volants.
Voilà. Mais par contre, ça constitue un groupe extrêmement homogène. Effectivement, on peut se demander pourquoi il n'y a pas plus d'espèces qui volent. Alors,
c'est à cause des poils ? On en revient aux poils ou pas du tout ?
Non. C'est que, anatomiquement, ça a été sûrement... l'aile de la chauve-souris a sûrement été quelque chose d'assez complexe à acquérir. En réalité, la portance se fait à partir d'une peau, hein, qu'on appelle le patagium, qui est tendue entre les membres antérieurs et postérieurs
de la chauve-souris.
De la chauve-souris, également la queue, entre les doigts, etc. Donc, c'est effectivement les membres antérieurs se sont complètement transformés en ailes, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on les appelle les chiroptères. Chiroptères, ça veut dire main ailée. Voilà.
Donc ça, c'est pour les chauves-souris.
Est-ce
qu'il y a d'autres mammifères
D'autres chauves-souris ont été un petit peu moins loin, c'est-à-dire qu'ils ont acquis ce patagium, mais qui leur permet simplement de planer. C'est déjà pas mal. Mais si vous voulez, le vol, on le définit par la capacité à se maintenir en l'air. Voilà. Alors, on peut se maintenir en l'air en planant. Les rapaces font très bien ça. Hein, ils utilisent les courants aériens. Hein, les mammifères ne savent pas le faire. Il y a que les chauves-souris qui volent activement. Les autres planent. Et leurs performances sont quand même nettement moindres, je dirais.
Celles des oiseaux. Les oiseaux, on sait que ce sont les descendants des dinosaures. Est-ce qu'on peut dire aussi que les mammifères, finalement, ils ont occupé la Terre, ou ils ont pu avoir un tel succès, justement parce qu'il n'y avait plus les gros dinosaures pour leur voler la vedette? Est-ce que c'est aussi simple que ça ou pas?
Alors, je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça, parce que les mammifères et les dinosaures, en fait, ont cohabité pendant des millions d'années, et ce serait bien étonnant que les mammifères n'aient pas occupé, en fait, des niches qui s'offraient à eux. Quand on regarde la nature aujourd'hui, les mammifères occupent tous les milieux. Il y en a des nocturnes, des diurnes, etc.
Donc, ils existaient déjà au temps des dinosaures.
Ils existaient, voilà. Et donc, alors, je pense... Enfin, il y a une chose qui est certaine, c'est que leurs fossiles sont plus difficiles à trouver. Donc peut-être que ça a donné cette impression qu'ils étaient un peu dominés par les dinosaures. Par ailleurs, c'est vrai qu'on trouve pas de mammifères de grosse taille à cette époque-là, en tout cas beaucoup moins
qu'aujourd'hui.
Beaucoup moins qu'aujourd'hui, et en tout cas moins spectaculaire évidemment que les gros dinosaures, hein, qu'on voit, comme celui qui est d'ailleurs
présenté au muséum en ce moment.
Voilà. Donc peut-être ça joue sur cette idée que, alors, on disait que les mammifères vivaient à l'ombre des dinosaures. Alors, il est certain que, quand les dinosaures ont disparu, probablement des niches sont ouvertes, hein, et donc ça a permis le développement des mammifères. Mais les mammifères vivaient déjà, je pense, déjà avec...
Alors, à propos d'idées reçues autour des mammifères, sur lesquelles vous revenez aussi dans cet ouvrage, ouais. Les mammifères à poils, aux éditions Quae, les éléphants ont-ils de la mémoire, Audrey ?
Oui. Ce n'est pas qu'une idée reçue, c'est effectivement prouvé. Et ça s'explique notamment par les grands territoires qu'ils sont obligés de parcourir pour trouver de la nourriture et de l'eau. Et donc, notamment, ils sont obligés d'avoir une mémoire par rapport à l'alimentation. Quels fruits je vais trouver à quel endroit par rapport à la saison, parce qu'ils ne vont pas se déplacer pour rien. Donc, ils vont acquérir au fur et à mesure du temps une mémoire collective de tel endroit.
Mémoire collective, et du coup, ils vont se transmettre.
Exactement, ils vont transmettre aux générations futures. Donc, ils apprennent eux-mêmes, et ensuite, ils apprennent à leurs descendants.
Un point commun, alors, c'est pas autour de la transmission, mais c'est autour de la vie sociale. De nombreux mammifères ont une extraordinaire vie sociale. Vous nous posez une colle dans ce livre. Quel est le point commun entre un rat taupe nue et une termite, Patrick Hoffner?
Alors, le point commun, c'est leur vie sociale. La socialité, en fait, se prend diverses formes, hein, c'est des étapes, en fait. Ça peut aller des simples interactions sociales au niveau d'une famille jusqu'à une organisation extrêmement complexe où des individus sont spécialisés. Certains sont spécialisés dans la reproduction, d'autres, par exemple, vont s'occuper de maintenir, si c'est pour les termites, de la
chacun a son rôle dans la termitière.
Voilà, certains vont la défendre, certains vont la réparer, etc. Et cette organisation qui est vraiment poussée à l'extrême, on pensait en fait qu'elle n'existait que chez les insectes, et en particulier les termites, mais aussi les fourmis. Et en fait, on a découvert assez récemment que des mammifères, des rongeurs en l'occurrence,
des rats taupes nus, donc sans poils.
Voilà. Le rat taupe nu n'a effectivement pas de poils.
Et il a une organisation sociale.
Il a une organisation sociale aussi intense, absolument. Et en réalité, il y a juste une femelle qui se reproduit, hein, qui inhibe en fait les autres femelles et les autres mâles d'un point de vue hormonal, ce qui fait que seuls quelques mâles participent à la reproduction et les autres s'occupent uniquement de l'élevage des jeunes et du maintien de la survie de la colonie.
Il y a vraiment, pour ce qui est de la reproduction, pour ce qui est de la vie sexuelle des mammifères, il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs, hein, on a l'impression, Audrey. Hein, c'est aussi divers que les mammifères eux-mêmes.
Tout à fait. Mais effectivement, les mammifères, on a une diversité, comme vous disiez, sur la reproduction. On en parlait tout à l'heure rapidement, mais ça peut être intéressant de retomber dessus, sur la diversité des milieux occupés, parce qu'on occupe le ciel avec les chauves-souris, les océans avec
les mammifères marins,
il y en a quand même une grande partie.
Baleines, dauphins,
exactement, et puis ça, ils vont très très loin, parce que le cachalot, il peut plonger jusqu'à 3500 mètres. Donc on va quand même très très loin. Il y en a qui vivent que sur le bord des rivages, donc les phoques, etc. Ils occupent les déserts, ils occupent les milieux froids, les milieux chauds. Enfin, vraiment tout type de milieu est occupé par les mammifères. Ils montent très 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 haut en montagne, parce qu'on a le yak qui monte à 5600 mètres, mais on a une petite espèce, le pika, qui peut monter
aussi
encore...
Aussi une sorte de
lagomorphe.
Proche
des lagomorphes, des lapins, lièvres, ouais, etc.
Ah là, je comprends mieux. Et qui monte très haut.
Qui monte très haut, jusqu'à 6000 mètres. Donc vraiment, c'est ce qui explique sûrement toutes les adaptations qu'il y a. On a une très très grande diversité d'habitats occupés par ces espèces.
Et pour ce qui est de dormir par toutes ces espèces, est-ce qu'on dort comme une marmotte ou comme un loin?
Patrick. Alors, là, en fait, on fait référence plutôt à l'hibernation ou à l'hivernation.
Et voilà.
Voilà, ça, ce sont c'est à ce propos qu'on.
Donc, qu'est-ce qui hiberne? C'est les marmottes, hein? C'est les marmottes.
Alors,
hibernent,
en fait, les deux hibernent. Donc, les deux expressions peuvent s'échanger. En réalité, la différence intéressante, elle est entre les animaux qui ont une vraie hibernation, donc ces deux animaux, marmotte et loire, par exemple.
Ours aussi.
Alors, l'ours est plutôt un hivernant. En fait, la caractéristique de ces animaux, c'est de pouvoir abaisser leur rythme cardiaque, abaisser leur température et pratiquement ralentir tout leur métabolisme en hiver. Et à tel point que, alors pour les lérots et les loirs en particulier, on peut ouvrir leur nid, hein, dans lequel ils hibernent, ils ne vont pas se réveiller. C'est vraiment un sommeil très très profond. C'est pour ça qu'on dit dormir comme un loir ou une marmotte.
Alors que les ours, vous dites qu'ils hivernent.
Ils hivernent, leur température descend beaucoup moins, en fait simplement de 3-4 degrés, et ils peuvent se réveiller beaucoup plus facilement, en particulier s'ils sont dérangés dans leur tanière, et même au cours de l'hiver, ils peuvent éventuellement se réveiller, même sortir de leur tanière. Donc, ils ont un sommeil beaucoup moins profond. C'est par rapport à la profondeur du sommeil.
C'est notamment en plus à cette période-là que les femelles vont mettre bas de leurs petits. Donc, elles vont forcément
qu'elles hivernent, elles arrivent pendant à mettre bas leurs petits. Là, on pourrait dire qu'on les envie un petit peu. Je vous propose du coup de nous réfugier avec Est-il dans les bras de l'ours à poil sur RFI. Son ours à poil sur RFI en compagnie d'experts mammologistes Audrey Savouret-Soublet et Patrick Hafner autour de la question pourquoi les mammifères sont à poil même s'ils ne sont pas tous les mammifères comme on pourrait le croire à poil justement et il y a aussi des mammifères particulièrement étranges. On a déjà parlé de l'ornithorynque mais je vous propose de suivre tout de suite la piste d'un autre mammifère, comment dire, peu ragoûtant, que l'on peut à ses risques et périls dénicher dans les forêts du Gabon. C'est d'ailleurs le biologiste Joseph Okouyi, aujourd'hui secrétaire exécutif adjoint de l'Agence gabonaise des parcs nationaux, qui nous avait mis sur cette piste à Libreville, au Gabon. On se bouche le nez et on écoute Joseph Okouyi.
Le rictérope, c'est vraiment un animal, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça a la tête d'un cochon, mais ce n'est pas un cochon, et ça a le corps d'un pangolin géant. C'est une espèce assez présente dans nos forêts, mais elle est très, très difficile à observer. Et pour la petite histoire, les pygmées, pour chasser le rictérope, parce qu'il vit dans des terriers, donc ils savent que l'animal est dans le terrier, et ils essayent d'ouvrir le trou pour aller le choper. Mais le problème avec le rictérope, c'est qu'il a des gaz assez toxiques, si on peut dire. Et donc, on a des chasseurs pygmées qu'on a retrouvés morts, asphyxiés, dans le terrier en essayant d'attraper le rictérope. Donc voilà, donc faire attention. Et pour vous dire à quel point cet animal est dangereux, même les crottes de rictérope, c'est un poison hyper puissant. C'est un animal qui a une digestion assez partielle, donc les crottes sont très riches en ammoniac. Et donc quelqu'un peut très bien empoisonner quelqu'un en juste prenant la crotte sèche et mettre dans un verre.
L'étrange rictérope et ses pouvoirs nauséabonds, je ne suis pas sûre que vous l'ayez croisé, je ne suis pas sûre qu'il existe en dehors des forêts du bassin du Congo.
Alors, si, en fait, c'est un animal, donc le rictérope est un animal qui est très, très répandu en Afrique. On le trouve, en fait, dans toute l'Afrique subsaharienne. Mais c'est un animal, effectivement, qui est très rare. Donc malgré que son aire de répartition soit très grande et puis il est nocturne, il est même pratiquement strictement nocturne et il est donc très très rare de le croiser en fait.
C'est à l'odeur qu'on peut le repérer.
Alors voilà, alors j'ai appris des choses hein, concernant la possibilité d'empoisonner des gens à l'aide des crottes. Hein.
Bon, vous oubliez ça très vite,
voilà.
Hein, Patrick Hofner.
Mais voilà, on n'utilisera pas cela. De toute façon, il faut déjà trouver, les trouver, ces crottes. Mais je pense que, par contre, on peut les trouver relativement facilement. Parce que, précisément, sa réputation de sentir mauvais est effective. Il possède des glandes, hein, près des orifices génitaux, enfin, mâles et femelles, d'ailleurs, qui sécrètent un liquide jaunâtre et qui, effectivement, a l'odeur du putois.
Alors, voilà. Putois, nous y voilà, parce que nous, le putois, ils sont très mauvais aussi. Hein. Enfin, ils peuvent sentir très mauvais.
On va en parler après.
On va en parler tout de suite.
Du coup, le putois, effectivement, a aussi une mauvaise réputation qui est justifiée, mais elle pourrait aller pour plus d'espèces, parce qu'en fait, il est comme tous les carnivores, il a des glandes anales. Donc avec une substance effectivement nauséabonde. Et ces glandes sont particulièrement développées chez les mustéidés, donc la famille du putois, et chez les méphitidés, donc des proches parents des putois, la moufette, donc la gonfleur dans Bambi. Donc c'est une petite moufette.
C'est ça, la petite moufette qui est très jolie, qui est une petite carnivore. Voilà. Et je sais que vous avez un faible, Audrey, pour les mammifères carnivores, justement.
Tout à fait, oui. C'est effectivement des groupes, un groupe qui m'intéresse particulièrement, notamment par rapport aux relations avec l'homme, et puis à toutes les polémiques qu'il y a généralement. Dès qu'on parle carnivore, il y a plusieurs problèmes qui arrivent.
Et
les
oui, grands c'est ça, carnivores, on se dit, les ce petits. Sont des prédateurs, est-ce qu'ils sont exact. Nuisibles? Ça, c'est des questions qui résonnent pour vous en tant que biologiste?
C'est régulièrement des questions qu'on a à traiter au niveau de notre travail, parce que les grands prédateurs, donc en France, on a ours, loup, lynx, ils peuvent...
En France, on a ours, loup et lynx.
Exactement.
Ouais. On entend beaucoup parler de l'ours et du loup. Hein.
Oui, le lynx est plus discret, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas de mesure au niveau national de plan de conservation ou de plan de lutte sur le lynx. L'ours, on en a dans les Pyrénées, on doit être à une quarantaine d'individus aujourd'hui.
Et le loup?
Et le loup, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est à 450 individus pour cette année. Donc c'est effectivement une espèce qui est revenue naturellement en France, donc qui arrive d'Italie et qui a traversé, et une population qui augmente d'année en année. Mais le loup était présent il y a quelques années déjà en France. Donc, il avait disparu parce qu'il avait été éradiqué, mais il revient naturellement sur son territoire.
Faut-il avoir peur du loup? Autre question que vous soulevez dans ce petit livre chez Quoi, sur les mammifères de tout
c'est
poil.
C'est une peur ancestrale apparemment. C'est une peur de tout temps, alors que l'ours va être utilisé comme doudou pour les enfants. Mmh. Le loup, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il a toujours fait très très peur. Alors qu'en soi, il n'y a pas de raison d'avoir particulièrement peur du loup. Si on compare les dégâts d'un loup par rapport à des dégâts de chiens errants ou de chiens tout court, on est à 200 000 morsures en France pour le chien, on est à plus d'un million aux États-Unis avec des mortalités associées. On n'atteint pas du tout ces chiffres pour le loup. Donc c'est une peur ancestrale à base de mythes nordiques.
Votre rôle de biologiste, c'est aussi quoi? De nous dire faut pas la peine d'avoir aussi peur du loup que
de
ça.
De rester factuel, en tout cas. Je ne suis pas du tout dans la sociologie, donc c'est de rester factuel. Donc il y a le loup cause des dégâts auprès des troupeaux de brebis.
Ça, c'est
pour
une
l'instant,
réalité.
En France, ça c'est une réalité, on ne peut pas dire le contraire. Par rapport à l'homme, il n'y a eu aucun dégât de recensé depuis que le loup est de retour en France, donc il n'y a pas à avoir peur. Ça reste un animal sauvage, donc il faut faire attention, mais comme il faut faire attention aux chiens de son voisin, ça, c'est des animaux, on ne peut pas tout prévoir.
Autour de la question de nos rapports avec tous ces autres mammifères de tout poil, on écoute Gérard Manset sur RFI. Animal, on est mal.
Animal. passe sur le devant du nez. On se baisse, on s'affaisse. On a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise. Et quand on veut sortir avec une demoiselle, on l'invite à dîner quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse, pas des rétro-rhinocéros.
Animal, on est mal. Gérard Manset sur RFI autour de la question des animaux et des mammifères de tout poil. Nous sommes en compagnie des experts mammologistes du Muséum d'Histoire Naturelle, Audrey Savouré-Soublé et Patrick Hafner, avec tout de suite une nouvelle question soulevée par Stéphane Flocari, professeur de philosophie et auteur, qui était récemment notre invité.
Est-ce que la notion de mammifère supérieur a toujours un sens en éthologie? Est-ce qu'on utilise toujours ce type de hiérarchie? Et qu'est-ce qu'elle vaut d'un point de vue scientifique?
Patrick Hofner, on parle toujours de mammifères supérieurs?
Non, on n'emploie plus ce terme pour la simple raison qu'au fur et à mesure qu'on fait des découvertes, on s'aperçoit que tous les mammifères sont quelque part extraordinaires, sont supérieurs. Donc c'est difficile de dire quel est celui qui est supérieur à l'autre. En fait, je pense qu'on a tendance un petit peu, parce que c'est un peu notre point fort, à nous humains, à juger les animaux par rapport à leur capacité, par exemple, à résoudre les problèmes, etc. Voilà, tout ce qui est propre à l'intelligence. Mais c'est parce que ça nous arrange, finalement, de classer les animaux par rapport à cette capacité.
Oui, pour nous, on compare à notre intelligence
complètement
humaine.
Mais on pourrait très bien dire, ah ben, l'animal supérieur, c'est celui, je ne sais pas, qui saute le plus loin par rapport à sa taille, etc. Donc, en fait, non, il n'y a pas d'animaux supérieurs et pas de mammifères supérieurs.
Et Patrick le disait à l'instant, Audrey, on ne cesse de découvrir d'étonnantes capacités chez les animaux en général, chez les mammifères en particulier, notamment des capacités incroyables de communication. On n'a pas beaucoup parlé des mammifères marins, mais c'est insensé, leur capacité de communication.
Ah oui, les mammifères marins, mais les mammifères même dans l'ensemble, en fait, ils communiquent de différentes façons. Donc déjà, il y a encore une fois une grande diversité. On a la communication chimique, dont on a parlé très rapidement tout à l'heure.
Avec
les phéromones, exactement. Donc avec l'exemple du rat taupe nue qui va émettre, la femelle va émettre des phéromones pour rendre les autres femelles stériles. C'est quand même une communication.
C'est incroyable, c'est pas seulement pour séduire les mâles, c'est pour rendre les autres femelles stériles.
Il y a plusieurs phéromones, il y a une grande diversité.
Il y a tout pour faire un monde chez les rats taupe nues.
Exactement.
Hein.
Après, on a aussi la communication donc visuelle, donc on peut très bien voir avec notre propre chien donc la position qu'il peut avoir quand il est soumis, donc il va s'écraser complètement, la tête basse, la queue baissée. Donc ils ont une façon de communiquer comme ça. On a aussi les bouquetins avec les grandes cornes qu'ils vont avoir, donc qui prouvent que le mâle est en pleine forme auprès de la femelle, parce qu'il a des beaux ornements sur la
c'est
tête.
C'est une manière de communiquer, de signifier, regardez comme je suis beau, en bonne santé.
Exactement, reproduisez-vous avec moi, je suis en pleine forme.
La communication ne servirait qu'à se reproduire, ou elle serait principalement destinée
ça fait quand même partie d'un des objectifs importants chez les mammifères, c'est d'assurer une descendance et que les gènes passent aux générations futures. Donc effectivement, il y a toujours beaucoup de choses qui tournent autour de la reproduction, soit pour attirer les femelles, soit pour sauvegarder des individus apparentés. Donc il y a le principe d'altruisme qu'on retrouve notamment chez les marmottes.
En fait, on
se met en danger soi-même pour privilégier sa famille. Le but toujours, c'est que les gènes, donc soit ses propres gènes, soit ceux d'individus apparentés, soient retransmis à la génération suivante. Donc les marmottes, on va voir ce qu'on appelle les marmottes sentinelles, donc des marmottes qui surveillent les alentours, je vais y arriver, et qui, à l'arrivée d'un prédateur, vont siffler pour prévenir les autres. Attention, il y a un prédateur qui arrive, cachez-vous.
Au péril de leur vie, tout de même.
Voilà, exactement, au péril de leur vie, mais pour la sauvegarde de leur propre famille.
Alors, vous parlez d'altruisme chez les marmottes. Nous-mêmes, on a une empathie, hein, les marmottes, et même tous les bébés mammifères. On est très sensible à ça, on a un lien particulier parce qu'on est mammifères nous-mêmes. C'est aussi sur ce fil-là qu'on peut tirer pour, en les connaissant mieux, peut-être les préserver.
Mais effectivement, on ressent une empathie particulièrement pour les mammifères. C'est peut-être, entre autres, on a quand même un ancêtre commun avec eux, et puis que eux aussi ressentent de l'empathie pour d'autres mammifères. Donc on a ce point commun qui peut nous aider. Et c'est effectivement peut-être pour ça que ça peut être utilisé comme espèce emblème lors de plans de sauvegarde, etc. Enfin, le WWF
avec son panda.
Voilà, exactement. Donc ce sont généralement des espèces qui vont plus attirer qu'une araignée ou qu'un insecte, qui vont faire plus parler. Donc tant qu'à faire, autant s'en servir pour aider dans la conservation si ça peut marcher.
C'est aussi votre but en tant qu'expert malogie, c'est à la fois de mieux comprendre, de mieux connaître, mais aussi de faire passer quoi ? Le fait que on a besoin de tous pour faire un monde ?
C'est effectivement, ça va être de synthétiser en fait l'ensemble des connaissances que l'on peut avoir sur, donc nous dans le cas là, sur les mammifères, pour voir là où il y a le plus d'espèces en danger, est-ce qu'il faut mettre en place des mesures de conservation à tel ou tel endroit pour communiquer justement contre les fausses idées reçues, et puis pour voir qu'en fait tout n'importe qui peut contribuer en fait à la conservation des espèces en améliorant la connaissance, en faisant chez soi quelques aménagements pour permettre de mieux protéger toutes les
espèces. Par exemple, puisqu'ici on est à Paris, enfin ici les Moulineaux juste à côté de Paris, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver les mammifères? Il y en a quand même.
Déjà, dès qu'on rencontre une espèce, c'est d'enregistrer cette observation, de dire j'ai vu telle espèce à tel endroit, et de la renvoyer à une association locale, par exemple, parce que ça permet de mettre à jour les connaissances. Si on ne sait pas où sont les espèces, on ne peut pas les sauver. Donc déjà, ça c'est le premier point. On va en contact avec les associations locales pour savoir où sont les espèces. Et ensuite, si on a de la chance, d'autant plus sur Paris, d'avoir un jardin, donc c'est beaucoup de chance, il y a quelques petites choses qu'on peut faire. Si le jardin a des barrières, faire des trous dans les barrières pour que les hérissons puissent passer d'un jardin à l'autre et ne soient pas enfermés. Si on a un grenier, pourquoi pas mettre des nichoirs pour accueillir des chauves-souris. Si on a ce qu'on appelle des petits pièges, donc des tubes en fait, qui sont creux, faire en sorte de boucher les creux pour pas que les musaraignes, par exemple, ou d'autres petits mammifères tombent dedans et s'étouffent. Donc il y a pas mal de petites choses que n'importe qui peut faire.
Merci infiniment pour tous ces conseils, en tout cas pour mieux connaître, comprendre et pour poser toutes les questions possibles et imaginables sur les mammifères. Elles sont dans ce livre que vous venez de publier tous les deux aux éditions Quae, Les mammifères de tout poil, 90 clés pour comprendre. Merci Patrick Hafner, merci Audrey Savouret-Soublet d'être venu en direct nous faire partager la vie des mammifères et nous faisons partie nous-mêmes du lot, du grand lot des mammifères. Merci à vous. Petit clin d'œil nostalgique, merci Sophie Janin, avec le générique de La vie des animaux de Frédéric Rossif. Ça vous dit quelque chose à vous aussi Patrick Hafner. Un tour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Sophie Janin à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses avec Alexandra Reza-Kokabi. Merci de votre curiosité amis auditeurs. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Prochain journal dans une minute.